Hébreux chapitre 11, versets 17 et 18. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je me souviens d'avoir promis que nous nous attarderions sur le sujet de la loi de Dieu. Je n'ai pas oublié. Simplement, pour le moment, je n'ai pas trop à cœur de faire cela, mais j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui me concerne et quelque chose qui nous concerne, quelque chose qui a à voir avec la foi. Avec la foi dont nous devrions être les détenteurs, les possesseurs, la foi qui devrait être la nôtre. Et dans la parole de Dieu, nous lisons au sujet de la foi qu'il y en a un qui est le père de la foi, le père des fidèles. Et c'est sur son exemple que j'aimerais que nous puissions méditer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'exemple d'Abraham. Il y a deux années, j'avais déjà contemplé sur l'exemple d'Abraham et les souffrances d'Abraham. Mais la providence a fait que je me retrouve encore une fois confronté vers quelque chose qui fait que j'ai besoin de ces leçons. Et je réalise qu'en allant plus profond, en réexplorant ces leçons, eh bien, je fais d'autres découvertes. Et donc, je vous propose de vous partager ces découvertes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous allez avec moi dans Genèse chapitre 15. Dans Genèse chapitre 15, nous avons le récit de la première promesse faite à Abraham par le Seigneur. Vous lisez dans Genèse chapitre 15, verset 1, ce qui suit. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis il le mena dehors et lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Nous avons dans Abraham, qui sont la même personne, une illustration de la justice par la foi. Et notamment dans ce passage, nous avons la première mention faite de ce concept de l'imputation de la justice de Dieu à celui qui croit. Ou en d'autres termes, ce concept de la justice ou la justification par la foi. Parce qu'il est écrit que Abraham crut à l'Éternel, qu'Abraham crut à la parole que l'Éternel avait prononcée, et l'Éternel, en raison de cela, lui imputa cette croyance, cette foi, à justice. Vous notez ici, frères et sœurs, que le but d'Abraham, ou à l'époque qui était Abraham, à cette occasion et dans cet échange avec Dieu, ce n'était pas d'être justifié. Le but d'Abraham, c'était de voir la promesse de Dieu vérifiée. Mais en ce que Abraham crut en la promesse de Dieu, eh bien Dieu fit quelque chose d'autre en ce qu'il utilisa l'exemple d'Abraham comme celui du père des fidèles, du père de la foi, pour que son exemple dans sa situation puisse servir d'illustration à nous qui avons besoin, et à tous les hommes pécheurs, mais à nous qui bénéficions de la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, qui avons besoin d'être justifiés, car nous sommes pécheurs et déchus de la gloire de Dieu, de la gloire du caractère de Dieu. Et cela, l'exemple d'Abraham nous a été donné en illustration de cela. Quoique il n'avait pas pour objectif de mérite, d'atteindre cette position d'être justifié par Dieu. Je relis verset 6. Et Abraham crut à l'Éternel. Il crut ce que Dieu venait de lui dire vis-à-vis de la postérité qu'il ne voyait pas encore. Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. C'est la première mention faite dans la parole de Dieu de cette imputation à justice en ces termes. Car nous la voyons déjà dans l'expérience d'Adam et Ève lorsque Dieu les a revêtus de peau. Ils étaient revêtus de figuier de leurs propres œuvres qui ne pouvaient pas les couvrir entièrement car c'était leurs œuvres qui sont comme des vêtements souillés. Mais Dieu les a revêtus de robes parfaitement complètes, d'une couverture pour couvrir leur nudité, pour couvrir leur péché, pour couvrir leur décadence et leur nature déchue. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que ce n'était que le début, quoique Abraham avait déjà fait une expérience avec Dieu en quittant son pays. Comme nous le voyons dans la vocation d'Abraham au chapitre 12. Je reviens en arrière parce que j'ai un peu raté ce passage. Dans Genèse chapitre 12, vous lisez au verset 1, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Et verset 4, nous lisons, et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui, etc. Donc c'était la première fois que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, mais il n'avait rien eu depuis ce moment-là. Et au chapitre 15, Dieu a renouvelé sa promesse à Abraham, et Abraham a cru à l'Éternel. Et l'Éternel lui a imputé cela, cette foi, à justice. Quelle foi? La foi qui voit, non pas ce qui se voit des yeux, mais qui croit parce que Dieu l'a déclaré. Mais par contre, malgré que Abraham, à l'époque, a cru à l'Éternel, a cru à la promesse de Dieu, Abraham n'était pas sans erreur. Nous le voyons dans chapitre 16, Genèse chapitre 16, au verset 1 à 4. Vous connaissez l'histoire, simplement nous allons la relire pour nous remettre ces choses en mémoire, je le lis. Or, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Saraï, et Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Il vint donc vers Agar, et elle conçut, et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. Et ensuite, nous voyons tous les déboires et la terrible tragédie de la polygamie manifestée en plein jour dans l'expérience d'Abraham, de Sarai et d'Agar. Parce que Abraham avait été déjà 10 ans dans la terre de Canaan que Dieu lui avait promise en héritage et en lien avec laquelle Dieu lui avait aussi promis une postérité, mais qu'il n'avait pas encore vu se matérialiser. Et donc, Abraham s'est laissé tenter par cette frustration de sa femme Sarai. Et il a dit, bon, on va essayer comme tu dis, parce que ça fait 10 ans qu'on est là et le Seigneur, il n'a pas accompli sa promesse. Donc, il avait cru à Abraham au départ. Mais alors que sa foi a été mise à l'épreuve par les années qui se sont écoulées, il a lâché prise à son intégrité et sa patience de la foi. La foi de la patience, elle n'a pas été menée à son comble dans l'expérience d'Abraham. C'est ce que nous voyons, et d'ailleurs je vais le lire ici dans l'esprit de prophétie. Dans Patriarches et prophètes, à la page 125 et au paragraphe 1er. La promesse d'un fils avait été accueillie par Abraham avec joie. Comme nous l'avons vu, il a accueilli cette promesse avec joie. La promesse d'un fils, la promesse d'une postérité. C'est ce que la promesse d'une postérité impliquait. Cela veut dire qu'il va avoir un fils par lequel cette postérité va être rendue possible. Mais il n'attendit pas que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière. Comment ? Il fallait qu'il attende que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière. Vous voyez ? Il avait toutes ces choses à manifester dans sa foi. Il fallait qu'il attende que la parole de Dieu s'accomplisse. Que la parole, sa parole, s'accomplisse. Pas ma parole, pas sa parole, pas son idée, mais la parole de Dieu. Mais pas simplement cela. Il fallait que ce soit à son heure. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse à l'heure que Dieu avait choisie et ordonnée, et à sa manière. Il fallait qu'il ne mette pas sa propre interprétation sur la parole et la promesse de Dieu, mais que ce soit bel et bien une attente qui attende dans la foi la manière dont Dieu envisageait d'accomplir sa propre parole et à sa propre heure. Mais comme nous l'avons lu, en Isaac et en son mariage, son union avec Agar, il a manifesté qu'il n'a pas attendu que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière. Il a entrepris d'accomplir la parole de Dieu à sa propre heure et à sa propre manière à travers la transgression de la polygamie. Je continue. Un délai fut permis pour éprouver sa foi, mais il ne résista pas à l'épreuve. Il ne résista pas. Comment est-ce qu'il ne résista pas? Il céda à la tentation que le diable lui présenta par le moyen même de sa femme, Sarai. Je le lis d'ailleurs. Sarah, jugeant impossible que Dieu lui donne un enfant dans sa vieillesse, suggéra à son mari un moyen par lequel le dessein de Dieu pourrait se réaliser. Elle lui proposa de prendre l'une de ses servantes comme épouse secondaire. La polygamie, si répandue à cette époque qu'on ne la considérait plus comme un péché, n'en était pas moins une violation de la loi divine et une grave atteinte à la sainteté et au bonheur du foyer. Le mariage d'Abraham avec Agar devait avoir des conséquences funestes, non seulement pour sa famille, mais pour les générations futures. Et ensuite, Donc, il a manqué, il a échoué dans cette épreuve. Il n'a pas attendu le temps, l'heure et la manière de l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu. Donc, il a quand même eu un bon départ par lequel, au final, il serait quand même dénommé le père des fidèles de la foi. Mais il y a eu cette tâche dans son expérience avec Agar. Et ensuite, au chapitre 17, versets 1 à 8, nous lisons la promesse réitérée. Je le lis. « Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla et lui dit « Pour moi, voici mon alliance est avec toi. » Et tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Et je te donnerai à toi et à ta postérité après toi, le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham, « Mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité, après toi, d'âge en âge, etc. » Il lui donna le rite de la circoncision, qui était non pas une bénédiction en soi, mais un signe de la circoncision qui était déjà en lui, comme nous pouvons le lire dans les écrits de l'apôtre Paul, et notamment dans Romains chapitre 4, et aussi dans Galates, il me semble. Et ensuite, vous continuez cette déclaration de Dieu à Abraham au verset 15. Dieu dit à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais Sarah, princesse, est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai. Et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre devant toi ?» Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac, rire. Et j'établirai mon alliance avec lui, en alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi, touchant Ismaël, voici je le bénis, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. » Que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Et quand il eut achevé de parler avec lui, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Donc Dieu est venu confirmer la promesse. Confirmer la promesse, mais cette fois-ci, dire expressément que la promesse ne se réaliserait pas à travers Ismaël. Il est bien venu lui dire expressément, « Ismaël, ce n'est pas cela que j'avais à l'esprit. » Abraham avait tenté d'accomplir la parole de Dieu à sa manière et en son heure, en son temps. Et Dieu vint confirmer la première promesse et mettre à bas les efforts de la chair. Dieu dit à Abraham, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû et je viens confirmer la première promesse que j'ai faite, que tu aurais dû attendre. La promesse est réitérée et le fils Ismaël est rejeté. Ensuite, vous poursuivez dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 14, où la promesse est encore une fois réitérée. Parce qu'il avait dit, si vous le lisez bien au verset 21, « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine, dans un an. » Et chapitre 18, verset 1, nous lisons ce qui suit. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux de la porte de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et j'apporterai un morceau de pain et vous fortifierez votre cœur. Ensuite, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais comme tu as dit. » Alors Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit, « Apporte vite trois mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. » Puis Abraham courut vers le troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite il prit du beurre et du lait et le veau qu'il avait apprêté et les mit devant eux. Et lui se tenait devant eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « La voilà dans la tente. » Et il dit, « Je ne manquerai pas de revenir vers toi dans un an. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même en disant, « Quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'enfanterai, vieille comme je suis ? Est-il rien d'impossible à l'Éternel ? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans un an. » Et Sarah aura un fils. Donc après de nombreuses années d'attente, après avoir failli dans cette attente toutefois, Dieu revint confirmer pour la troisième fois son alliance, mais surtout la postérité, à travers Sarah et non pas en Ismaël. La postérité promise est confirmée malgré l'incrédulité de Sarah. C'est lourd de sens. Lourd de leçons pour nous. Toutefois, ce n'est pas vraiment le sujet de notre méditation aujourd'hui, mais j'ai besoin que nous cheminions jusque à ce qui nous intéresse le plus. Et avant d'y aller, j'aimerais que l'on se tourne vers Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 au verset 16. Vous allez voir qu'il y a une raison pour laquelle nous lisons toutes ces choses-là. C'est un train de pensée qui nous mène vers une certaine issue, vers un certain summum dans l'expérience d'Abraham. Je le lis, Romains chapitre 4, verset 16. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi pour être père de plusieurs nations et notre père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Espérant contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ah, on s'arrête ici. À cause de tout cela, à cause de cette foi, à cause de cette espérance contre tout sujet d'espérer, à cause qu'il n'était pas faible dans la foi, à cause qu'il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, mais qu'il fut persuadé que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, à cause de cela, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Tout cela, cette attitude vis-à-vis de la promesse et de la parole de Dieu, tout cela, cette foi, lui fut imputé à justice. Elle lui fut comptée comme s'il était juste devant Dieu, quoi qu'il était pécheur. Vous commencez à voir l'illustration de la justice par la foi. Mais j'aimerais toutefois lire pour nous un passage qui met en avant quelque chose de, comme nous l'avons souligné, quelque chose qui fait que l'illustration que Dieu désirait donner en Abraham avait été salie, avait été entachée par cette erreur avec Agar. Je le lis. La naissance d'Isaac, c'est après que Isaac soit né, nous lisons à ce sujet-là, dans Patriarches et Prophètes, à la page 126, paragraphe 3, la naissance d'Isaac, qui réalisait après toute une vie d'attente leur plus chère espérance, remplie d'allégresse Abraham et Sarah, comme aussi tout le camp du patriarche. À la page 127, paragraphe 2, je lis. Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures. Mais sa foi n'avait pas été parfaite. Elle avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme avec Abimélec, ainsi que lors de son mariage avec Agar. Quel était le problème? Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures, parce qu'il serait le père des croyants, l'exemple de la foi. Mais sa foi n'avait pas été parfaite. Vous voyez? Donc l'illustration était tachée. Elle avait été souillée. Sa foi n'avait pas été parfaite, elle avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme, ainsi que lors de son mariage avec Agar. Aussi, pour qu'il parvienne au plus haut degré de foi, Dieu le soumit à une nouvelle épreuve, la plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Nous allons continuer après. Donc vous voyez que l'illustration que Dieu souhaitait donner en Abraham fut gâtée par le manque de foi d'Abraham manifesté dans son mariage avec Agar et dans le fils Ismaël né de cette union. L'illustration avait été souillée. Et donc, voilà, c'est pour ça. Maintenant, nous lisons, toujours dans la même citation, dans une vision de la nuit, ordre lui fut donné de se rendre au pays de Morija pour y offrir son fils en sacrifice sur une montagne qui lui serait désignée. Le fils de la promesse, le fils qu'il avait tant attendu. Mais en lien avec lequel il n'avait pas manifesté une foi parfaite, ce fils-là, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 22, ce fils-là, Dieu lui demandait maintenant de le sacrifier. Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Il arriva après ces choses, après la naissance d'Isaac et que Agar et Ismaël avaient été chassés du foyer, et que Abraham a fait une alliance avec Abimélec, etc. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et il lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Et il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Offre-le en holocauste. Vous voyez, la leçon est grande, frères et sœurs. Abraham avait une soif, Abraham avait un désir. Son désir, c'était d'avoir une postérité. Mais son désir était en rapport direct avec la promesse que Dieu lui avait faite. Vous comprenez? Tout homme a envie d'une postérité. Mais Abraham avait particulièrement envie et désirait particulièrement cette chose parce que Dieu lui avait promise lorsqu'il l'avait appelé à sortir de son pays, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 12. Abraham avait ce désir. Ce désir avait été nourri, ou nous pourrions peut-être dire avait été créé par Dieu même à travers sa parole. Ensuite, Dieu vint raffermir, confirmer le désir même d'Abraham qu'il avait lui-même fait naître en lui, en lui renouvelant sa promesse d'une postérité au chapitre 15, comme nous l'avons lu. Ensuite, Dieu lui a de nouveau confirmé cette promesse au chapitre 17 et au chapitre 18. Et puis finalement, Isaac est né. Isaac est né en accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous lisons dans Romains chapitre 4, directement vis-à-vis de ces choses-là, que Abraham a cru à ces choses-là, mais que sa foi n'avait pas été manifestée de manière parfaite. Il a cru, il a manifesté la foi dont il est devenu le père des croyants, mais sa foi n'avait pas été parfaite comme nous venons de le voir. Elle avait été, je le relis, avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme, ainsi que lors de son mariage avec Agar. Et pour qu'il parvienne au plus haut degré de foi, maintenant Dieu le soumettait, ou je le lis directement, Dieu le soumit à une nouvelle épreuve. Donc, Abraham est parvenu à l'accomplissement de sa promesse et il se dit, maintenant la promesse est accomplie. Mais aux yeux de Dieu, il n'en était pas ainsi. Aux yeux de Dieu, Dieu voyait que le fils est né. Mais la foi n'a pas été rendue parfaite. Vous comprenez? Dieu ne s'inquiète pas de l'accomplissement de sa promesse. Ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté et la nécessité, c'est que notre foi soit rendue parfaite dans notre espérance de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous comprenez? C'est la leçon que nous recevons dans ces choses-là. Et donc, pour cela, pour parvenir à ce résultat ultime, eh bien, une meilleure illustration était requise. Une meilleure illustration. Une illustration qui mènerait sa foi à la perfection. Ou comme je l'ai lu ici, pour qu'il parvienne au plus haut degré de foi. En anglais, c'est « that he might reach the highest standard », la plus haute norme, le plus grand critère de foi ou de confiance en Dieu pour qu'il atteigne, parvienne à ce plus haut degré. Dieu le soumit à une nouvelle épreuve. Comme si ce n'avait pas été suffisant d'attendre toutes ces années, maintenant il faut qu'il sacrifie le Fils même pour lequel il a tant espéré, qu'il a tant attendu pendant tant d'années. Vous comprenez? Je relis. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. En holocauste. En sacrifice. Sacrifie-le. Le fils que tu aimes et auquel tu es tant attaché. Abandonne-le. Abandonne-le. Sacrifie-le. Mets fin à ses jours. Parce que sa foi devait être rendue parfaite. J'aimerais lire avec vous quelques déclarations de l'esprit de prophétie qui mettent en lumière ces moments et cette illustration suprême de la justice par la foi. On se tourne pour ça dans Patriarches et Prophètes à la page 123, paragraphe 3. À l'époque où il, Abraham, reçut cette injonction, il avait atteint l'âge de 120 ans. Il était donc, même pour l'époque où il vivait, un vieillard. Dans la vigueur de l'âge mûr, l'homme peut affronter des épreuves et des douleurs qu'il ne saurait supporter à un âge plus avancé, alors que chancelant, il descend vers la tombe. Néanmoins, Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie pour le moment où, courbé sous le poids des ans, rassasié de labeur et de soucis, le patriarche soupirait après le repos. Ensuite, nous lisons qu'il était riche, qu'il avait toutes ces choses, qu'il était respecté à l'égal d'un prince par les grands du pays, que les plaines qui s'étendaient autour de son camp étaient couvertes des milliers de têtes de son gros et de son menu bétail. Dieu l'avait béni, il avait prospéré jusqu'à ne plus savoir que faire de toutes ses richesses dans cette terre qui lui avait été promise. Et parsemé des tentes de ses bergers, de ses fidèles serviteurs qui se comptaient par centaines, le fils de la promesse qui avait grandi aux côtés de son père était devenu un jeune homme. Le ciel avait enfin couronné de bienfaits cette longue vie de sacrifice, d'attente patiente et d'espoir différé. Dans l'obéissance de la foi, Abraham avait dit adieu au sol natal. Il s'était détourné du sépulcre de ses pères et de la terre de ses ancêtres. Il avait erré en étranger dans le pays qui devait lui échoir et longtemps soupiré après la naissance de l'héritier promis. Il avait longtemps soupiré après la naissance de l'héritier promis. Sur l'ordre de Dieu, il avait banni de son foyer son fils Ismaël, et maintenant que l'enfant tant désiré est arrivé à une belle adolescence, hein, c'est une image pour nous. C'est une réalité, mais c'est une image. Maintenant que l'enfant tant désiré est arrivé à une belle adolescence et que le patriarche commence à entrevoir le fruit de ses espérances, une épreuve plus grande que toute se présente à lui. Donc le fils est là, le fils représente le potentiel de la promesse de Dieu, parce que Dieu a promis une postérité, mais pour que cette postérité arrive, il y a encore des échelons, vous comprenez? Il y a encore des degrés, il y a encore des étapes. Il faut que ce fils arrive à la maturité adulte, il faut qu'il ait une femme, il faut qu'il ait des enfants, vous comprenez? Toutes ces choses pour l'accomplissement de la promesse de Dieu étaient en ligne de mire pour Abraham, et donc c'est pour ça que nous pouvons lire que le patriarche commence à entrevoir le fruit de ses espérances. Il commence à les entrevoir parce que le fils est là, il est né, et c'est comme si toutes les choses sont sur le point de s'accomplir, mais une épreuve plus grande que toute se présente à lui. Donc il croyait avoir passé toutes les épreuves et être maintenant, avoir maintenant devant lui seulement les accomplissements merveilleux de la parole de Dieu, de la promesse du Seigneur. Mais non, non. Maintenant Dieu dit, ce fils en qui maintenant tu as mis ton espérance, il faut que tu le sacrifies pour que ton espérance soit en moi. Parce que maintenant, Dieu, il semblait à Abraham que Dieu avait accompli sa promesse, et donc maintenant l'espérance d'Abraham était dans le fils de la promesse. L'espérance d'Abraham n'était plus tant en Dieu, elle était en Isaac. Abraham voyait en Isaac le potentiel de la promesse de Dieu, comme une personne vivante marchant sur ses deux pieds. Et Dieu est venu dire à Abraham, tu l'aimes, Isaac, tu l'aimes. Il faut que tu le tues. Vous comprenez? L'ordre fut exprimé en termes qui durent tordre d'angoisse le cœur de ce père. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Isaac était non seulement le rayon de soleil de son père, la consolation de sa vieillesse, mais par-dessus tout, l'héritier de la promesse. Ce fils dont la perte par accident ou par une maladie eut déchiré le cœur d'Abraham, et fait pencher sa tête blanchie. Ce fils, il lui est maintenant ordonné d'aller l'immoler de sa propre main. Cet ordre lui paraissait épouvantable et impossible. Contemplez, frères et sœurs, contemplez. C'est l'illustration suprême de la justice par la foi. Et il s'agit ici, frères et sœurs, non plus seulement de la justification par la foi, mais de la perfection par la foi. Parce que c'est précisément ce genre d'expérience que feront le peuple de Dieu qui souhaite s'efforcer de faire partie des 144 000 au sujet desquels il est écrit dans Apocalypse chapitre 14 qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Et comme il est écrit dans verset 12, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avant qu'Abraham fût, je suis. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Avant qu'Abraham soit, je suis. Donc, quelle est la plus importante? La foi. Abraham a donné un exemple de la foi qui doit être la nôtre. Il n'y a pas de foi supérieure à la foi de Jésus. Et donc, lorsque nous regardons cet exemple d'Abraham, frères et sœurs, nous sommes appelés à une foi encore supérieure à celle dont Abraham nous a donné et laissé un exemple. Telle sorte que l'ordre qui vient à nous dans notre marche avec Dieu pour parvenir au but d'être semblable à Christ nous paraîtra dans ses différentes facettes certaines fois comme épouvantable et impossible. Je continue. Satan s'empressa de lui suggérer qu'il était victime d'une illusion. Puisque la loi divine dit « tu ne tueras point » et que Dieu ne pouvait exiger ce qu'il avait défendu. Là, ça devient corsé. N'est-ce pas? Parce que la même voix qui s'était adressée toutes ces années à Abraham s'adressait maintenant encore une fois à Abraham en lui demandant quelque chose qu'il semblait que Dieu ne pouvait exiger de lui. Satan s'empressa de lui suggérer qu'il était victime d'une illusion. Satan lui disait « tu rêves, Abraham, tu rêves, tu es trompé par le diable, Abraham. » C'est ça qu'il lui disait. Tu es victime d'une illusion, d'une tromperie. Quelqu'un te trompe. C'est l'ennemi qui vient à toi, qui te parle. Eh oui, c'est ce qui est arrivé à Abraham lorsque Dieu l'a éprouvé par l'épreuve suprême. Il était tenté de croire qu'il était victime d'une illusion. Victime d'une tromperie du diable. L'argument a été fort. Comment Dieu peut exiger que tu tues alors qu'il a exigé et qu'il a défendu le meurtre? Le patriarche sortit de sa tente et se mit à contempler la paisible clarté d'un firmament sans nuages. Il se rappelle ce que Dieu lui avait dit au chapitre 15, verset 5. Puis l'Éternel le mena dehors et lui dit « Regarde vers le ciel » et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Et donc Abraham, maintenant, il sort et se souvient de cela. Il se souvient de cela. Il se souvient de la promesse. Il se souvient également de quelque chose que Dieu a dit lorsqu'il a déclaré verset 19 du chapitre 17, Dieu lui avait dit « Certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils et tu l'appelleras Isaac et j'établirai mon alliance avec lui en alliance éternelle pour sa postérité après lui. » Et maintenant, au chapitre 22, Dieu lui dit « Va, prends ton fils Isaac à Morija, et là, offre-le en sacrifice, en holocauste. Vous voyez, vous avez ces deux choses conflictuelles ici. Dieu a dit, ta postérité sera comme les étoiles. Ta femme t'enfantera un fils, Isaac. Et maintenant, Dieu dit, prends Isaac, ton fils que tu aimes, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Vous comprenez? C'est deux, une promesse et un ordre qui semblent totalement conflictuels dans l'expérience d'Abraham. Il se rappelle, donc il vient, le patriarche sortit de sa tente et se mit à contempler la paisible clarté d'un firmament sans nuages. Il se rappelle la promesse qui lui a été faite près de 50 ans plus tôt, selon laquelle sa postérité sera innombrable comme les étoiles, près de 50 ans plus tôt. Parce que maintenant, il est âgé, plus âgé encore, parce qu'il a eu Isaac, et que maintenant, Isaac est dans l'adolescence, vous comprenez? Abraham avait 100 ans, à peu près, quand il a eu Isaac, et maintenant, s'il est dans sa postérité, si dans sa, son adolescence, Abraham doit peut-être avoir 120 ans, et quand il avait 75, 80, c'est à ce moment-là que la promesse lui avait été faite. Or, si cette promesse doit être accomplie en Isaac, comment peut-il être mis à mort? Vous voyez le conflit? Vous voyez la torture en Abraham? La torture n'est pas née de sa propre confusion. Elle est née de la difficulté qui lui était présentée parce qu'il avait besoin d'être éprouvé d'une manière suprême, parce que sa foi avait faibli dans l'expérience avec Agar et Ismaël, qui étaient nés de cette union, de polygamie. Écoutez bien, frères et sœurs, Abraham est tenté de croire qu'il est en effet victime d'une hallucination. Est-ce possible, frères et sœurs? Est-ce possible que si nous marchons dans le sentier étroit et ensanglanté, dans les traces de Jésus-Christ, nous faisions aussi une expérience qui soit en certains points semblable à celle qu'Abraham a faite lorsque Dieu était en train de le mener vers le perfectionnement de sa foi? Pour être un exemple des fidèles, nous qui voulons aussi être un exemple de ceux qui sortiront de Babylone, en réponse à l'appel de Apocalypse chapitre 18 verset 5, si nous voulons être un exemple pour appeler les âmes, appeler à sortir de la confusion, est-ce possible que Dieu vous fera aussi traverser ce genre d'expérience? Est-ce possible? Est-ce une possibilité? Ou est-ce une hallucination? Abraham était tenté de croire qu'il était en effet victime d'une hallucination. Il se disait, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Ce n'est pas possible. C'est conflictuel. Vous comprenez? Oui, frères et sœurs, il faut prendre cela au sérieux. Parce que c'était sérieux pour Abraham. Et le diable voulait le tenter de croire que c'était une tromperie. Pourquoi? Parce que dans cette expérience, précisément dans cette expérience-là, Dieu était en train de faire d'Abraham un exemple suprême de la foi pour ceux qui viendraient après lui. Dieu était en train de faire une expérience, une expérimentation à travers Abraham pour servir de modèle aux générations futures, comme nous l'avons lu précédemment. Dans sa perplexité et son angoisse, il se courbe sur le sol et prie comme il n'a jamais prié. Il demande à Dieu s'il doit accomplir cette horrible mission de lui donner une confirmation quelconque de cet ordre. Songeant aux anges qui lui ont été envoyés pour lui révéler le sort de Sodome et qui lui ont annoncé la naissance de ce fils, il se rend sur les lieux où il a plusieurs fois rencontré les messagers céleste, espérant les y rencontrer et recevoir d'eux des instructions plus complètes. Dieu avait déjà communiqué avec Abraham et donc Abraham se dit bon ben il va continuer, il va confirmer, Dieu va continuer de me parler, mais non, il n'y a plus personne maintenant. Homme, frère. Voilà l'expérience du patriarche. Il demande à Dieu s'il doit vraiment accomplir cette horrible mission. Donne-moi une confirmation, Seigneur. J'ai vu tellement de fois tes anges, ils sont venus communiquer avec moi, on a parlé ensemble. Toi, tu m'as dit que tu es l'ami, je suis l'ami de Dieu. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je fais? Voici ce qu'il avait dit aux anges avec lui, lorsqu'il était venu rendre visite à Abraham et à Sarah, avant d'aller visiter Sodome et Gomorrhe. Donc, il se rend sur les lieux où il a plusieurs fois rencontré les messagers célestes, en espérant les y rencontrer et recevoir d'eux des instructions plus complètes. Il se dit, Dieu va me parler, Dieu va me donner les détails, il y a que d'avoir quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que Dieu m'a déclaré. C'est ça qui se passe dans la tête d'Abraham. Il se dit, il y a un problème. Parce que le diable, en même temps, le tente, il lui dit, Abraham, t'es fou, quoi. T'es devenu complètement fou dans ta tête. Dieu ne te parle pas, il ne va pas te dire ça. Qu'est-ce que c'est, ça te vient d'où tout ça, Abraham? Arrête, arrête, sors, sors, change. Tu vas pas tuer ton fils. Nick. Allez, prends-le. Il est le fils de la promesse. Fais-le grandir, oublie cet appel, qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens, ça, Abraham. Et donc, Abraham prie, il demande à Dieu, il prie comme il n'a jamais prié. Il demande à Dieu s'il doit accomplir cette horrible mission de lui donner une confirmation quelconque de cet ordre. Il va sur les lieux où il avait l'habitude d'aller. Mais aucun d'eux ne vient soulager son cœur. Aucun des anges ne vient soulager le cœur d'Abraham dans son angoisse. Dans les ténèbres dont son esprit semble enveloppé, seul l'ordre terrible retentit à ses oreilles. Prends ton fils, ton unique, celui qui tu aimes, Isaac. L'injonction est donc péremptoire. D'ailleurs, le jour approche, il faut partir. Abraham n'ose plus tarder. Ensuite, il pense à la femme, à sa femme, à la mère. Il se demande s'il va lui dire. Il se dit non, parce que elle ne va pas comprendre, elle va peut-être résister à cause de ses affections très très intenses pour son fils qui lui a été donné dans son vieil, dans son, dans sa vieillesse. Il réveille son fils et ils font leurs préparatifs pour le voyage et ensuite ils se mettent en route accompagnés de deux serviteurs. Ensuite, ils marchent silencieux côte à côte. Le patriarche qui médite son redoutable secret n'est guère disposé à converser, etc. Cette journée, la plus longue qu'Abraham ait vécue. Tire lentement vers sa fin. Tandis que son fils et les jeunes gens se livrent au sommeil, l'homme de Dieu passe la nuit en prière, espérant encore qu'un messager céleste viendra lui dire que l'épreuve suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa mère. Il se dit, ça va s'arrêter bientôt. L'homme de Dieu passe la nuit en prière, espérant encore qu'un messager céleste viendra lui dire que l'épreuve suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa mère. Il a cette expectation, il a cette attente, mais ce n'est pas l'attente de la foi. C'est l'attente où il compare son expérience présente avec ses expériences précédentes et il se dit que son expérience présente pourrait être définie par les expériences précédentes qu'il a fait avec Dieu. Le fait est, et la différence, c'est que maintenant il fait une expérience par laquelle sa foi va être menée à la perfection et son expérience présente ne peut pas être définie et déterminée par les expériences qu'il a faites dans le passé avec le Seigneur, quand les anges sont venus lui rencontrer, quand le Seigneur est venu lui confirmer la promesse, maintenant il n'y a personne. Personne. Tout ce qu'il entend, c'est l'ordre. Prends ton fils, Isaac, celui que tu aimes. Amène-le et offre-le en holocauste. C'est tout ce qu'il entend. Prends ton fils, celui que tu aimes. Isaac, il n'entend rien d'autre. Et rappelez-vous, en même temps, le diable continue de le tenter, de lui dire qu'il est victime d'une hallucination, qu'il est trompé par le diable. Le diable est en train de lui dire qu'il est trompé par le diable. Vous comprenez? C'est à ce point que cela peut être difficile de discerner. Et si nous n'avons pas de discernement né de la parole de Dieu et de notre attachement à l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu, nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons être tentés et échouer là où Abraham a réussi, à savoir, nous pourrions croire véritablement et céder à cette tentation de croire que nous sommes victimes d'une hallucination, que nous sommes menés par le bout du nez par le diable, alors que véritablement, nous sommes en train d'être menés par l'Esprit de Dieu, parce que le Seigneur est en train de nous éprouver pour rendre notre foi et mener notre foi à la perfection, comme il l'a fait dans l'expérience d'Abraham. Et, comme ils disent en anglais, la marche chrétienne véritablement, véritablement, pas celle que nous vivons comme la vie tout en rose, la vraie marche des vrais disciples de Jésus-Christ, de ceux qui veulent faire partie, de ceux qui adhèrent au message des trois anges et au message supplémentaire d'Apocalypse chapitre 18 et au message supplémentaire d'Apocalypse chapitre 18 verset 5, cette marche-là. Ce n'est pas, comme ils disent, une marche dans le parc. Non, non, non. Vous allez faire l'expérience. Si vous le voulez bien, si le Seigneur voit en vous un joyau, si le Seigneur voit en vous une pierre précieuse, si vous manifestez une disposition de cœur qui fait que vous êtes et vous montrez à Dieu que vous êtes ce diamant, que vous êtes cette perle, que vous êtes cette pierre précieuse d'un grand prix, Dieu va casser. Et Dieu va venir au plus près avec la meule pour faire de vous une pierre précieuse, digne de ses trésors. Mais pour vous amener à cela, pour m'amener à cela, il faut que je traverse une épreuve qui semblera être comme me prenant le sang de mes veines, tellement c'est éprouvant. Oui. Ça, la réelle expérience que nous sommes appelés à faire. Pas ce genre d'expérience où nous pouvons vivre comme le monde et en même temps avoir les avantages d'être enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ça, ce serait essayer de servir Dieu et Mammon en même temps. Mais Dieu dit, et Dieu a manifesté, a démontré en Abraham que celui qui voulait servir Dieu de tout son cœur, il allait l'éprouver jusqu'à la mort. Ensuite, je lis, tandis que son fils, je le relis, tandis que son fils et les jeunes gens se livrent au sommeil, l'homme de Dieu passe la nuit en prière, espérant encore qu'un messager céleste viendra lui dire que l'épreuve suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa mère. Mais il ne voit venir personne. Une seconde nuit de douleur et de prière s'écoule. Seul continue à retentir à son oreille la parole qui doit le laisser sans héritier. La parole continue de retentir à son oreille, il n'entend que cela. En échange, Satan ne se fait pas faute de lui insuffler le doute et l'incrédulité. Le doute par rapport à quoi? Par rapport à cette même promesse, cette même ordre qui lui a été annoncé de Dieu, en lui faisant croire que l'ordre est le fruit de ses hallucinations. Mais Abraham repousse ses tentations. Il est éprouvé, il n'est pas certain, mais il repousse tout de même les tentations du diable, parce que il a reconnu la voix qui s'est adressée à lui comme étant la même voix qui s'était adressée à lui dans les temps précédents, l'appelant à sortir de sa contrée natale, l'appelant ou ensuite lui promettant, lui réitérant la promesse d'une postérité, ensuite venant lui réitérer encore cette promesse, ensuite se présentant à lui en personne avec deux anges. Il a reconnu la voix qui, quoi qu'elle lui semble épouvantable et impossible, il a reconnu que c'est la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une longue expérience, de nombreuses années. Il a marché, Abraham, avec l'Éternel. De telle sorte qu'il est maintenant à même de discerner les tentations du diable et de repousser ses incitations au doute et à l'incrédulité. Au matin de la troisième journée, comme ils se mettent en route, le patriarche, regardant vers le nord, aperçoit le signe qui lui a été promis, une nuée de gloire suspendue au-dessus de la montagne de Morija, l'assurant que c'est bien du ciel qu'est venue la voix qui lui a parlé. Donc vous voyez, il n'a pas de confirmation jusqu'à ce qu'il ait mené à bien son périple de 3 jours jusqu'à Morija, auquel moment il voit le signe lui indiquant la montagne où il est censé amener son fils pour l'immoler. Donc il a bel et bien eu une confirmation, mais c'était après avoir fait ce voyage pour obéir à l'appel et à l'ordre de Dieu. Et vous lisez encore maintenant un élément très important. Quand le Seigneur appelle à une consécration qui soit de l'ordre du sacrifice intense, je le lis. Encore à ce moment-là, loin de murmurer contre Dieu, Abraham s'encourage en pensant à la bonté et à la fidélité du Seigneur. Nous sommes encore dans l'illustration ici. Ce fils chéri, qui a été de sa part un don inattendu, de la part de Dieu un don inattendu, n'a-t-il pas le droit aussi de le lui reprendre? Vous voyez, donc il met les choses en perspective, il se dit, de toute manière, ce fils en qui j'ai mis mon affection, c'est le Dieu qui me l'a donné. Et donc, Dieu, il peut le prendre s'il veut. Comme Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais le relire ici, parce que vous voyez que c'est directement lié à l'Esprit qui a permis à Abraham de permettre à Dieu et d'autoriser Dieu de mener sa foi jusqu'à la perfection. Je le lis dans Job chapitre 21. Et il dit, et Job dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'était cet esprit-là qui animait Abraham et qui lui permettait de continuer dans son obéissance à l'ordre qui lui était à tous ses sens épouvantable et impossible. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. D'ailleurs, il y a une promesse qui lui dit, de point, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Donc il ne se réjouissait pas simplement de dire que Dieu avait donné et qu'il pouvait aussi ôter, il se réjouissait de penser que Dieu avait promis que sa postérité serait en Isaac, et donc son accrochement, il se cramponnait à la parole de Dieu en croyant aussi cette même foi que Dieu ne peut pas se contredire et que s'il avait demandé à que Abraham sacrifie Isaac, c'est qu'il avait un moyen par lequel Isaac pourrait quand même être l'héritier de la promesse et celui par lequel sa postérité serait appelée de son nom. Vous comprenez ? Postérité nombreuse comme les grains de sable du rivage. Or Isaac est l'enfant du miracle. Celui qui lui a donné la vie ne pourrait-il pas la lui rendre? Donc, ça continue ce que j'allais dire. Plongeant son regard au-delà des choses visibles, Abraham se cramponne à la parole divine et se dit en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts. Là vous voyez la foi qui atteint les sommets. En dépit de ses erreurs passées, La foi maintenant est menée à la perfection. Et Abraham voit au-delà des apparences, des choses qui sont visibles, et pensait en lui-même, se disait en lui-même, que Dieu pouvait même le ressusciter des morts. Abraham avait eu la foi pour croire que Dieu pouvait donner un fils à quelqu'un qui était mort, quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de donner naissance, à une personne, à Sarai, qui n'était plus, qui n'avait plus cette chose que les femmes ont coutume d'avoir, qui était en tout point ce qu'on pourrait appeler stérile. Il avait cru cela. Et maintenant, il se disait en lui-même que Dieu pouvait aussi le ressusciter des morts, faire revenir des morts. Il avait fait naître de la mort, et il pouvait aussi faire revenir des morts, celui qu'il avait donné. Et ensuite, il va jusqu'à l'endroit de la scène du sacrifice, je le passe. Isaac s'adresse à son père et dit « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?»« Mon père, combien ces mots percèrent le cœur d'Abraham ?» Pas encore, il ne pouvait pas maintenant lui dire « Mon fils !» Il ne pouvait pas maintenant lui dire « Mon fils, répond-il, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Abraham est en train de regarder à quelque chose qu'il ne peut pas voir, quelque chose qu'il ne peut pas discerner, quelque chose qu'il ne peut même pas comprendre de ses sens, mais qu'il peut savoir par la foi. Arrivé au lieu désigné, le père et le fils bâtissent un autel et y placent le bois. Alors, d'une voix tremblante, Abraham révèle à Isaac le message divin. Effaré, terrifié à l'ouïe du sort qui l'attend, le jeune homme n'offre toutefois aucune résistance. Il pourrait s'enfuir, etc., mais il a appris la soumission. Je passe. Maintenant, je lis. Et maintenant que les derniers gages d'amour ont été échangés entre le père et le fils, que les dernières larmes ont coulé et qu'une dernière fois ils se sont embrassés, le père lève le couteau qui doit égorger son fils. Mais son bras reste paralysé. Du ciel, un ange de Dieu lui crie « Abraham, Abraham !» Il répond promptement « Me voici !» Et la voix continue « Ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors Abraham aperçoit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et sans perdre un instant, il amène la nouvelle victime et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dans sa joie et sa gratitude, il donne un nouveau nom à ce lieu désormais sacré, Jéhovah Jiré. Dieu pourvoira. Et sur le mont Morija, Dieu renouvelle l'alliance faite avec Abraham et par un serment solennel confirme la promesse destinée à ses descendants à travers toutes les générations. Ce qui nous amène, pour conclure, aux paroles d'Hébreux chapitre 11, qui était notre lecture biblique. Hébreux chapitre 11, verset 17, où il est écrit par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé et que celui qui avait reçu les promesses offrit son fils, son unique, dont il avait été dit « C'est en Isaac que ta postérité sera appelée ». Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il recouvra Isaac par une sorte de résurrection parce qu'il avait comme mené à bien l'acte du sacrifice. La seule différence étant que l'ange avait arrêté sa main avant que le couteau traverse bel et bien le corps d'Isaac. Mais dans le cœur d'Abraham, le sacrifice avait été fait. Et c'est pour cela que Dieu dit, ne fais rien à l'enfant, parce que je sais maintenant, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Maintenant je sais que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé la chose qui t'était si chère. Tu l'as sacrifiée sur l'autel de l'Éternel. Et cela nous amène vers Romains chapitre 4. Je pense que j'avais fait allusion à la fin. Romains chapitre 4, versets 22 à 25, où il est écrit. Si vous lisez, d'ailleurs, nous y retournons. Verset 20. Il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, ce n'était pas juste pour lui, mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Vous voyez, cette foi qui croit que Dieu pourra même ressusciter notre espérance des morts, c'est cette foi par laquelle nous obtenons la justification, parce que c'est cette foi qui nous permet de voir comment il est possible que Dieu ait fait revenir son Fils unique des morts, comme ce fut le cas en figure dans le sacrifice d'Isaac, comme nous l'avons lu. Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et j'aimerais attirer une dernière fois votre attention vers une autre citation. Je le lis ici dans Patriarches et Prophètes, à la page 132 au paragraphe 2. Et cela nous explique pourquoi ce genre de choses peuvent nous arriver et pourquoi Dieu permettra à ce genre d'expérience d'être les nôtres. Je le lis. Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Aucune épreuve n'aurait pu mettre l'âme d'Abraham à la torture comme l'ordre d'offrir Isaac en sacrifice. Aucune épreuve. C'était l'épreuve parfaite pour mettre l'âme d'Abraham à la torture et pour éprouver sa foi et la mener à perfection. Qu'est-ce que Dieu voulait? Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Donc, lorsque Dieu permet que nous faisions de telles expériences intenses, profondes, de torture de notre âme, où notre foi est éprouvée. C'est pour nous aider à comprendre par notre expérience personnelle la grandeur du sacrifice auquel Dieu a consenti en faveur de la rédemption, de notre rédemption. Ces choses sont permises pour nous donner une perspective personnelle, une compréhension personnelle des choses qui autrement pourraient rester impersonnelles et simplement théoriques. Dieu permet que la fournaise de l'épreuve s'approche de plus en plus proche de notre peau pour nous donner une expérience personnelle de l'Évangile. De l'Évangile. Je continue. Dieu livra son fils à l'ignominie et à la mort, et les anges qui assistèrent à l'agonie du Rédempteur n'eurent pas le droit de s'interposer, comme ils le firent dans le cas d'Isaac. On n'entendit aucune voix crier « C'est assez !» Pour sauver une race perdue, le roi de gloire dut sacrifier sa vie. Quelle meilleure preuve peut-on demander de l'infinie compassion et de l'amour de Dieu? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toute chose avec lui? Voilà, frères et sœurs. Voilà, nous avons la réponse. La réponse est plus encore. La réponse de nos maux, de nos souffrances, c'est pour que nous comprenions de manière personnelle, par notre expérience personnelle, la grandeur du sacrifice de Christ. Puisse le Seigneur rendre ces choses réelles pour nous, pour vous, pour moi, et affermir et augmenter l'intensité de l'épreuve qui mène notre foi à la perfection, pour que nous puissions aussi être justifiés par Dieu, comme Abraham a été justifié, comme il est écrit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à l'Éternel et qui lui imputa cela à justice. Puissions-nous croire de manière active, de manière vivante, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que il peut même ressusciter des morts. Nos espérances que nous devons et sommes appelés à sacrifier. Que ce Seigneur vous bénir et vous encourager et encourager nos cœurs par son Saint-Esprit, c'est ma prière.